Assieds-toi. Pierre et moi, nous revenons de la négociation en cours entre la FESAC, la Fédération des employeurs du spectacle, de l'audiovisuel, du cinéma et de la musique, et les organisations syndicales de salariés. Négociation qui a démarré ce matin à 9h, qui s'est arrêtée à 13h30 et qui a repris à 17h. À l'heure qu'il est, ça se poursuit sur deux choses. Il y a eu aussi, par ailleurs, de nombreux échanges de documents et d'envoi de documents tout le week-end. Notamment, il y a eu deux études envoyées par le président du comité d'expertise, deux études issues, donc, et construites par les services statistiques de l'UNEDIC. Une de ces études, c'est une réponse à des réponses de simulation, en fait, en répondant à des questions qui avaient été posées par la CGT en prévision d'éventuelles améliorations de l'accord sur le chômage à l'avenir. Et l'autre, c'était des réponses à des questions communes posées par l'ensemble des parties présentes en vue d'une éventuelle amélioration de l'accord plus tard. Ensuite, hier soir, tu veux bien fermer la porte ? Merci. Ensuite, hier soir, a été envoyé par le président du comité d'expertise, tard, un rapport d'étape destiné aux partenaires sociaux interpro, ainsi qu'au ministre du Travail et Culture, je crois, était aussi dans la liste en voie, ainsi que toutes les parties qui étaient présentes dans la négociation. Le rapport d'étape dit assez franchement que, chose qui nous avait été dite, qu'au point où nous en sommes aujourd'hui, les statistiques fournies par l'UNEDIC étaient insuffisantes pour faire une évaluation globale des effets de l'accord d'avril 2016. Les négociations entre partenaires, entre les syndicats de salariés et les syndicats de patrons, tournaient autour de deux textes. Un texte destiné à l'interpro, sachant que ce qui était dicté par l'interpro, c'était qu'il fallait que les partenaires du secteur donnent leur réponse au diktat de l'interpro demain, le 22. Donc, il fallait terminer cette négociation le 21. Donc, le premier texte est destiné à l'interpro. Globalement, l'idée, c'est d'acter que le comité d'expertise était incapable de donner les éléments nécessaires pour correctement évaluer l'impact de l'accord d'avril 2016 et donc de demander le maintien de cet accord en vigueur avec, par ailleurs, des modifications dans les textes de l'UNEDIC que nous considérons et avoir mal transposé l'esprit et la lettre de l'accord de 2016. En parallèle à cela, il y a un autre texte qui est une lettre au Premier ministre qui détaille le contexte et les mesures pour l'emploi qu'on considère nécessaires dans un cadre ou conventionnel ou réglementaire et qui sont d'une part destinées à renforcer notre demande auprès de partenaires sociaux interprofessionnels, deuxièmement de faire en sorte qu'un certain nombre de mesures qui auraient dû être actées par le gouvernement qui n'ont jamais été correctement mises en place le soient, et troisièmement de donner à la CFTT Spectacle un outil à utiliser auprès de sa confédération pour les convaincre que nous sommes en train de travailler dans le bon sens. Là où nous en sommes, c'est relativement... Enfin, nous, on est partis à 6h30. D'après le texte qu'on a reçu en arrivant, ça avançait encore, ça semble avancer. L'idée, c'est d'avoir un accord unanime, parce que si ce n'est pas unanime, ça va être compliqué. Ça va être déjà compliqué, mais ça sera encore plus compliqué si ce n'est pas unanime. Et de faire en sorte que ce soit livré demain à la négociation interprofessionnelle qui, normalement, d'après ce que le gouvernement avait exigé, devait se terminer demain. Tout le monde a vu, je suppose, dans la presse, l'état des négociations interpro. Et les négociations interpro, d'après ce que nous a dit Denis Grabouille, qui mène la délégation CGT, que vous connaissez, d'après ce qu'il dit, pour lui, ça n'a même pas commencé, cette négociation, parce qu'on reste sur des déclarations de principe des uns et des autres qui sont tellement opposées que rien, on ne peut même pas commencer à discuter du texte. Donc, il a été dit ici et là que la négociation interpro puisse être peut-être prorogée. Édouard Philippe aurait dit, au moins la CFTT, que ça pourrait éventuellement être prorogé jusqu'au 22 février s'il constatait à l'issue de demain qu'il y avait des progrès. Voilà où ça en est. Et Pierre, tu veux remplir quelques détails?
Peut-être. Je ne sais pas si vous avez suivi toutes les négociations, mais donc il y a eu 4 séances de négociations, et là c'est la 4e et c'est la dernière. Donc il y avait des experts qui étaient censés nous fournir des chiffrages pour qu'on puisse savoir un peu là où en aller. Tout en sachant, avant même de commencer à négocier, qu'on n'aurait pas ces chiffrages parce qu'il fallait attendre l'automne 2019 pour évaluer l'accord. Et ils ont sorti du chapeau quand même ce week-end, le samedi à 10h03 et le dimanche soir à 20h passé, des chiffrages qu'on n'avait même pas demandé, pour certains en tout cas. Et il fallait que ça nous serve pour la négociation qui était censée commencer ce matin à 9h tapante. Donc bien sûr, il y en a plein qui, au sein de la négociation, qui n'ont jamais lu tous ces documents-là. On en a retenu surtout donc ce qu'a dit Jimmy, c'est-à-dire ce qu'a dit le président de ce comité d'experts, à savoir que c'était très très partiel et que de toute façon les chiffres qu'on avait ne seraient pas justes. Il fallait plus de recul que ça. Il y a un autre problème avec ces chiffres-là, c'est que on n'a pas pu en discuter avec les experts ni avec les services de l'UNEDIC, ce qui fait qu'il y a des aberrations dans les textes qu'ils nous ont donnés. mais enfin, je vais pas les sortir. Ce sont des points qui sont très techniques, mais il y a vraiment des points qu'il faudrait qu'on puisse discuter. Et actuellement, on n'a pas revu le président du comité d'experts et on n'a jamais vu les services de l'UNEDIC. Donc, de toute façon, il y a des points qu'il faut débattre sur la séance du jour. On s'est tous comportés comme s'il n'y avait pas d'autres séances de négociation derrière. Donc ce soir, le but, c'est qu'on obtienne quelque chose. Quoi ? On ne sait pas encore. Il y a deux textes qui sont sur la table, une lettre au Premier ministre et une lettre pour les négociateurs au niveau interprofessionnel. Bon. Donc je ne vais pas paraphraser tout ce qu'a dit Jimmy, mais au point où on en est de la négociation des textes, il va y avoir une suspension de séance dans quelques minutes pour que les employeurs puissent aller réétudier les textes qu'on a modifiés jusqu'à maintenant, là. Et normalement, on devrait en savoir plus assez rapidement. Il faut savoir que ce sont autant les employeurs que la CFDT qui font un peu, enfin, qui ralentissent cette négociation parce qu'il y a une unanimité, sinon de tous les autres, c'est-à-dire de Force ouvrière, de la CFTC et de la CGC et de la CGT, sur les points qu'on a évoqués et mis dans l'avenant et dans la lettre au Premier ministre. Donc pour l'instant, on est vraiment dans l'attente de satisfaire les desiderata de la CFDT et de nos employeurs. Donc c'est à peu près le point que je peux te dire. Jimmy, est-ce que tu vois d'autres choses ? Oui, la CFDT, de toute façon, doit toujours se retourner vers ses supérieurs pour se prononcer, puisque de toute façon, ils ne signeront rien sans l'accord de leurs supérieurs. Donc de toute façon, il faudra aussi attendre que la CFDT remonte vers leurs supérieurs. Voilà. Est-ce que il y a des premières questions par rapport à la présentation qu'on a faite ?
D'accord, avec le micro. Pourquoi est-ce que la CFDT a cette attitude qui est clairement de beauté en touche ?
Tu veux répondre, Jimmy ? La question, c'était pourquoi est-ce que la CFDT a cette attitude qui force à...
Depuis toujours, la CFDT spectacle... c'est un numéro d'équilibriste. Ils savent très bien que dans le spectacle, en tout cas dans le spectacle qui est surtout concerné par cet accord des professionnels intermittents, ils ne représentent très peu de monde et que des accords qu'ils ont signés par le passé leur a coûté très cher. Ils ont perdu du monde. Donc, ils aimeraient bien rester avec les autres organisations du secteur s'ils peuvent, en même temps, leur confédération, comme vous le savez, est très intéressée par quelque chose qui ferait plaisir un maximum au gouvernement depuis longtemps. Que ce soit Hollande avant ou Macron maintenant, même si pour l'instant ils sont pas sur la même ligne tout à fait, du moins au niveau visible sur le régime général. Donc voilà. Donc nos collègues du spectacle, de la CFTC spectacle, ils avancent jamais et ils le disent. Hein, c'est tout à fait transparent. Ils le disent. Nous, on vérifie chaque pas avec la conf. Et on ne fera pas quelque chose qui va faire en sorte qu'il y a un blocage de la position confédérale dans le régime, dans la négociation générale de la Convention. Et leur truc, c'est de faire un maximum d'économies. Ils sont prêts, non pas, je pense, à entrer dans la lettre de cadrage tout à fait du gouvernement à 3,9 milliards. Néanmoins, ils sont fléchés pour faire des économies. Et du côté du spectacle, ils savent très bien que s'ils disent « nous, on veut aussi des économies », ils sont morts dans le spectacle.
Ce qui n'est, enfin, ils ont quand même signé la lettre de cadrage. C'est
la Confédération.
La Confédération, oui, bien sûr. La CFDT a signé la lettre de cadrage pour les intermittents. Donc c'est pour ça qu'ils doivent essayer de faire semblant de répondre à minima à cette lettre de cadrage-là. Y a des mesures qui parlent quand même de ratio recettes-dépenses. Il y a des efforts. Il y a la différence. Si. Non, mais c'est... Ah bah, c'est ton appréciation.
Oui, je voudrais réagir par rapport à toutes ces négociations, parce que peut-être qu'une pour une fois, je vais me fâcher avec vous. Je suis en désaccord total avec plein de choses qui sont faites par la CGT en ce moment. Je trouve, puisque tu fais partie du SPIAC, je trouve absolument obscène la pétition qui a été mise en ligne pour sauver les riches. Je trouve ça obscène. Pas qu'il faille, pas que les problèmes de gens qui gagnent 3 à 4 000 euros par mois, voilà, c'est pas un problème moral. Mais c'est que dans une pétition, au moment où on est là, dans une pétition, ne pas avoir une ligne sur les 4 milliards d'euros sur les chômeurs du régime général qui vont se faire massacrer, ne pas avoir une ligne pour ce qui concerne le régime spectacle, pas avoir une ligne des problèmes des congés maladie, pas avoir une ligne sur la date anniversaire fixe et se concentrer sur les 7% intermittents indemnisés touchés par ces franchises salaires dont vous parlez, je trouve ça immonde. Alors maintenant, sur les franchises salaires, je vais te dire franchement sur les franchises salaires, parce qu'il y a plein de choses que je ne comprends pas. Le mot surfranchise est impropre, ce n'est pas une surcharge française, c'est des franchises. La règle, tu parles des réponses, la règle des services juridiques, de l'UNEDIC est arrivée, des experts est arrivée, il n'y a pas d'erreur d'application. Ce que vous dites est faux. Il n'y a pas d'erreur d'application. Alors, s'il y a une erreur d'application, pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas dénoncée en 2014? Parce que l'application est la même depuis 2014. Deux secondes. Depuis 2014, il existe des franchises salaires. Il existe un plafond de cumul. Et depuis 2014, on calcule le plafond de cumul avant les franchises salaires. D'accord? Depuis 2014. En 2016, ce qui s'est passé, c'est que les franchises salaires ont été impactées de 3 jours supplémentaires, uniquement de 3 jours supplémentaires. Et ce qui s'est passé en 2016, c'est qu'il y a eu la mise en place d'une chose, c'est la date anniversaire. Le problème, c'est pas les franchises salaires avec votre plafond de cumul, comme vous le dites. Le problème, pour vous, je parle pour les tranches élevées de salaire, c'est l'application de la date anniversaire. Alors j'aurais préféré que vous soyez plus honnête et que vous fassiez comme le SNTP-CT, hein, qui, dès le départ, était contre la date anniversaire pour un droit de tirage, puisqu'un droit de tirage favorise effectivement les plus riches. Effectivement, la date anniversaire remet de la justice sociale. Ce qu'il faut dire à tout le monde, c'est que les franchises salaires que vous dénoncez sont quand même 27 jours en moins qu'avant 2003. Pour être très clair, quelqu'un qui actuellement a 3 jours de franchise salaire aurait eu 30 jours de franchise salaire avant 2003. C'est-à-dire qu'on est revenu en 2016 à une réforme qui est quand même moins violente pour les plus riches qu'avant 2003. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, en 2003, il se passe quoi? On voit une réduction une réduction de 12 mois à 10 mois et demi, une réduction de 12 mois à 10 mois. Donc effectivement, c'est les plus précaires qui morflent. Tous ceux qui ont du mal à faire leurs heures. C'est eux qui morflent. OK. Et en contrepartie, pourquoi ça ne fait pas d'économie? C'est qu'on fait gagner beaucoup de fric à des gens qui n'en ont pas besoin, à savoir que leur franchise salaire, on leur diminue de 30 jours. Ce qui est énorme. Un type qui, avant 2003, avait 30 jours de franchise salaire parce qu'il gagnait plus de 3 000 euros par mois, on lui dit maintenant, t'as 0 jour de franchise salaire. C'est pour ça que j'avais trouvé une formule à l'époque, c'était que 2003, c'était les exclus du régime qui finançaient les assadiques des salariés à haut revenu. C'est ça, 2003. Eh bien, là, on est revenu à un peu plus de justice sociale. Oui, effectivement, pour faire entrer 8000 personnes, on revient à 507 euros en 12 mois, et en contrepartie, on met des franchises salaires, et effectivement, il y a une chose qu'il n'avait pas avant 2003, un plafond de salaire cumul indemnité. Mais bon, moi, mon problème, et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec la position de la CGT, moi, mon problème, c'est que c'est pas que jusque-là, j'étais pas intervenu, etc., c'était pas que, effectivement, le mec qui gagne 3000 balles par mois et à qui on prend 300 ou 400 balles, etc., etc. Mais faut pas se tromper. Dans un moment où on demande des économies, D'un moment où on demande des économies, où 4 milliards d'euros sont demandés d'économies, d'accord ? Qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer si votre truc de pétition et si ce que vous réclamez là est appliqué, d'accord ? Effectivement, ça touche peu de monde. Je l'ai dit, ça concerne 6 ou 7 000 happy few, d'accord ? Mais en termes de montant, ça impacte. Donc on va avoir un accord qui va coûter plus cher. Donc si ça, ce truc des franchises salaires, si on accepte la pétition franchise salaire, l'accord, il va coûter plus cher. Qu'est-ce qui va se passer en 2020 ? Qu'est-ce qui va se passer en 2020 ? Eh bien en 2020, c'est encore les plus fragiles qui vont devoir faire des économies sur le surcoût qui aura été demandé là. Alors moi je dis, s'il y a surcoût à demander, ok, allons-y. Alors s'il y a surcoût à demander, alors faisons pour les congés maladie. Faisons le surcoût que reviendrait la date anniversaire fixe. Remontons les planchers qui sont à 48 euros. Remontons les planchers. Ok pour ce surcoût-là. Mais un surcoût pour des gens qui gagnent au minimum 3000 balles par mois, eh bien, moi je dis que c'est absolument scandaleux. C'est scandaleux. Quand je vois là tous les cas qu'on me donne, de Lounia, etc., encore un qui se plaignait cet après-midi parce qu'on me traite de tous les noms, etc. Le mec, il me dit, mais c'est dégueulasse, c'est 6 mois de franchise salaire, etc. Je dis, mais tu gagnes combien ? Le mec, il gagne 11 000 euros de salaire par mois. Et le mec, il se plaint parce qu'il a 6 mois de franchise salaire et qu'il est impacté. Mais j'en ai rien à foutre. Encore une fois, moralement, il peut toucher des assédicons compléments s'il le veut. Je m'en fous, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on est dans un moment d'économie, on est avec Macron, on est ceci, on est cela. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, la CFDT fait très attention, contrairement à la CGT, je le reconnais, fait très attention à tout ce qui est économie. La CGT n'a jamais demandé d'économie, et la CGT aimerait bien que tout le monde soit contenté. Je dis simplement que je sais parfaitement que la CGT est conscient de tout ça, mais je ne comprends pas pourquoi, au niveau des arbitrages, la CGT préfère défendre les franchises salaires des happy few plutôt que de mettre en avant ça. Alors la réponse qui m'est faite, c'est parce qu'on n'a pas les moyens de toucher à l'accord et parce qu'on veut seulement toucher à ce qu'on estime, nous, être des erreurs d'interprétation. Je suis désolé, les franchises salaires ne sont pas des erreurs d'interprétation. Ce qui, comme le dit le service juridique de l'ONIDIC, ça a toujours été comme ça. Je ne vais pas rentrer techniquement, mais une franchise n'est pas un différé. Et une franchise est toujours prélevée sur des jours indemnisables. Il est donc tout à fait normal que l'ONIDIC, en premier, calcule le plafond et qu'ensuite calcule le décalage pour avoir le nombre de jours indemnisables, ce qu'ils ont toujours fait depuis que ces franchises salaires et ce plafond cumulé ont été mis en place en 2014. Pendant 2 ans, ça s'est passé comme ça. Pendant 2 ans, personne ne dénonçait, soi-disant, les surfranchises et le problème juridique, alors qu'il était là, mais il n'était pas là. Là-dessus, je ne suis pas un super défenseur de Pôle emploi. Je dis que juridiquement, Pôle emploi a raison. Et vous êtes dans votre tort de dire ça. Il faut admettre qu'au niveau de la négo, il y a une signature de fait sur un truc. Je ne dis pas que la négociation voulait penser que l'impact allait être aussi énorme. Mais c'est facile maintenant de dire « Ah ben non, nous, on a pas mal négocié, c'est eux qui se sont trompés. » Non, c'était voulu comme ça, ça a été chiffré comme ça. C'est parce que ce chiffrage-là a amené ça que l'accord a pu avoir lieu. Donc maintenant, revenir sur ce chiffrage-là et accorder des millions d'euros en plus à des gens qui, moi, à mon humble avis, n'en ont pas besoin, je trouve qu'au niveau des arbitrages, c'est absolument dégueulasse. Et cette pétition, elle n'est pas dégueulasse en soi. Si vous aviez rajouté tous les points que je dis, je n'aurais pas trouvé dégueulasse. Mais j'estime que ces franchises salaires, ça doit arriver en dernier de la liste. En dernier de la liste. Et au moment où on demande à 4 milliards d'euros d'économie sur le dos des plus faibles, il est absolument dégueulasse que des happy few qui ont des salaires très importants se plaignent pour leur petit problème de pouvoir d'achat.
Deux demandes ici.
Alors Samuel, moi j'apprends que je suis un happy few. Je trouve pas qu'avec 3000 balles par mois, une famille de 3 personnes à Paris, on gagne des millions. Et je trouve très dommage qu'on soit à se battre entre nous sur ce genre de détails. Tu as raison dans le sens où moi je trouve que cette demande elle est très très à très bas niveau. Et que notre régime il est beaucoup plus menacé que ça, mais je crois qu'il faut un peu relativiser les choses, qu'un cadre supérieur qui serait au chômage en dehors de notre régime, dans n'importe quelle entreprise, il aurait des indemnités chômage beaucoup plus élevées, avec ou sans franchise, et beaucoup plus longues, et donc dire, ah ben non, il faut que les gars qui gagnent 3 000 euros par mois, perdent la moitié de leurs indemnités assédiques, parce que c'est dans mon cas, voilà, j'ai perdu 50%. J'ai perdu combien ? J'ai perdu 6 000 euros par mois. Je trouve que c'est beaucoup, et que, puisque effectivement j'ai accepté ça, et que donc, apparemment, c'est pour la solidarité, il y a des nouveaux entrants, j'aimerais bien avoir les chiffres aussi, mais tant mieux pour eux, 8 000. Donc ben, j'en ai peut-être un ou deux à mon compte, tant mieux pour eux. Mais je n'ai pas envie de me faire engueuler comme tu nous as engueulés. Voilà. Vraiment, j'apprends. Je suis dans les 7% les plus riches. Ben, dis donc, formidable. Ils ne sont pas très riches, les plus riches.
Oui, moi, je vais aller aussi dans ce sens-là. Alors, moi, je suis dans le dessin animé. Donc, on fait partie des Happy Few, peut-être pour vous. Moi, la réalité du milieu, c'est qu'il y a des gens qui se demandent s'ils vont rester en intermittent, s'ils se mettent en auto-entrepreneur, s'ils vont passer au régime général. Du coup, venir attaquer aussi violemment, moi, j'avoue que je ne comprends pas trop, quoi. On peut trouver que cette revendication de la CGT est à minima, mais déjà la mobilisation n'est pas évidente à monter. Donc je vous laisse quant à votre suite stratégique sur comment mobiliser les troupes, en sachant que pour l'instant, si j'ai bien compris, ça vient de l'audiovisuel, la mobilisation. Donc voilà.
Oui, je voulais juste te dire aussi que je ne sais pas si je suis un happy few, je me le sens... En tout cas, de moins en moins happy few. Il y a plein de gens qui sont en train de descendre de plus en plus. Donc, je pense que c'est contre-productif d'opposer également les gens entre eux comme ça. On vient des AG syndicales pour essayer de voir si on peut agir avec des syndicats. Je suis pas à la CGT pour l'instant, mais ça donne pas envie quand ça commence comme ça.
Alors, moi, je ne vais pas répondre aussi à la pétition SPIAC parce que je ne la connais pas, je ne l'ai pas lue. Mais c'est la SPIAC. C'est vrai que sur la Sécu, là, c'est bien pris en compte dans les deux textes qui sont sur le papier. C'est le fait que pour les périodes d'arrêt de maladie de moins de 3 mois, il y a effectivement la période de référence est rallongée, mais aussi que la période d'indemnisation, au cas où on est à une date anniversaire au milieu de l'arrêt de maladie, que ce soit prorogé aussi, d'autant.
Pour répondre du coup sur la pétition, pour le coup, ça a été un vrai dilemme. Hein. Nous, on s'est dit, bon, il faut que les salariés de l'audiovisuel et du cinéma se bougent, parce que, en règle générale, c'est pas eux qui se bougent pour défendre l'assurance chômage. Là, il y avait une mesure très concrète qui ne relevait pas d'une négociation. Parce que là, dès le départ, la CGT a déchiré la lettre de cadrage. On est parfaitement clair sur ce qu'on demande et sur ce qu'on veut. On ne veut pas d'économie. On veut que l'accord de 2016, il continue. Et on veut surtout qu'il soit appliqué tel qu'on l'a signé. Alors, là, on n'est pas d'accord. Il se trouve qu'après, on peut refaire l'histoire de 2014 et ce qui s'est passé quand on est passé à la date anniversaire. On serait revenu dessus si on l'avait vu. Sauf que dans l'ancien système, le problème, et c'est pour ça qu'il y a eu une grosse mobilisation en 2014 hein, aussi, hein, c'est parce qu'il y avait un différé qui allait être très alourdi. Et là, si... On avait vu ce mécanisme que le plafond, il intervenait d'abord et qu'après, qu'il y avait retrait des... Ça n'a pas toujours été comme ça. À partir du moment où il y a eu un plafond, absolument, absolument, absolument. Non, mais ça, on est parfaitement d'accord. Sauf qu'il se trouve que ce plafond, en 2014, il avait et un côté qui était négatif, qui faisait que c'est le même problème que là... Maintenant, ça pouvait décaler dans le temps à très loin, et un côté positif, une fois qu'on avait écoulé tous les jours de franchise. Donc c'est pour ça qu'on s'en est pas rendu compte. C'est-à-dire que le côté positif, c'était ça protégeait le capital de jour dès l'instant où t'atteignais ce plafond. Enfin, bref. Ah mais on a attends non bah les jours indemnisables, on est parfaitement d'accord. Jours indemnisable, le plafond de cumul, tel qu'il a toujours été pensé, c'était sur le montant versé. C'était pas pour limiter le nombre de jours indemnisables. Là, ce qu'on demande juste, c'est que les jours indemnisables, ils soient écoulés d'abord, c'est-à-dire qu'ils soient retirés d'abord, et après, ce qui reste, on lui applique le plafond. C'est comme ça que ça a été pensé et négocié. Après, tu n'es pas d'accord. Parce qu'on ne l'a pas vu, et je viens d'expliquer pourquoi. Sur
Pendant ces deux années-là, il y avait plein de gens qui étaient encore sur l'accord de 2014. À ce moment-là, il y avait encore plein de gens qui étaient sur l'accord précédent. Si. Ben oui, parce que le temps d'épuiser leur franchise, ils étaient toujours sous l'ancien accord. À l'époque, il n'y avait pas de Tatani.
Et juste pour corriger, ou alors j'ai peut-être mal compris, mais on n'a jamais essayé de revenir sur le fait qu'il y ait une franchise salaire. Enfin, le SPIAC, alors là je parle SPIAC, hein, mais la franchise salaire, le fait qu'on retire que 27 jours et tout ça, mais on l'a signé. Hein. Enfin, on ne souhaite pas revenir dessus. On n'est pas contre les franchises salaires. On n'est pas contre les franchises congés. Alors justement, ça c'est un vrai problème. C'est que les chiffrages, là, ils sont en train de reproduire la même erreur. C'est-à-dire que là, en ce moment, ils font mesure par mesure. La date anniversaire fixe, ça coûte tant. La franchise salaire, ça coûte tant. Ça rapporte. La franchise congé payé, ça coûte tant. Le plafond, ça coûte tant. C'est complètement débile de raisonner comme ça. C'est que le croisement de ces mesures qui peut être relevant. C'est pour ça qu'on a demandé une étude de comparaison entre les deux protocoles, et c'est pour ça qu'il faut attendre l'automne 2019, parce que pour appliquer ça à tous les contrats, à tous les intermittents sur une période de 2 ans, bah,
de toute façon ça coûtera plus cher.
Bien sûr que ça coûtera plus cher.
C'est là où il y a l'arbitrage, je ne sais pas. C'est vrai que ça coûte plus cher pour 100% d'intermittents, donc ça coûte plus cher pour 7%.
Alors déjà c'est pas 7%, c'est plutôt 10 voire 12. Et en plus de ça, enfin le enfin après je vais... Ah bah attends, je te laisse sur les chiffres, hein. Moi j'ai pas de problème. 12 000 sur 110, ouais, d'accord. Ça fait 10%, c'est pas 7.
Par les problèmes de non-écoutement de franchise, quand je dis 7%, c'est un très grand maximum. Et il suffit de voir le niveau de salaire de l'annexe 10 dans le dernier rapport que vous avez pour voir qu'on est à des milliers de kilomètres de ça.
Moi, je ne comprends pas. Si ça concerne si peu de monde que ça, ça ne va pas coûter si cher que ça.
Ouais, moi je voulais aussi revenir sur cette question de franchise, mais par un autre biais. J'ai été choqué aussi de voir ça, en fait. Je suis adhérent au SPIAC, et j'ai été aussi choqué de voir ça. Pas parce que j'ai quelque chose en particulier contre justement ces fameux 7%, mais ouais, j'ai l'impression que si à un moment donné c'était un enjeu, j'ai l'impression d'avoir rejoint l'UNDIA plutôt que le SPIAC, tu vois. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, la question principale, je suis d'accord avec Samuel sur le fait que cette revendication, j'ai pas d'opposition à cette revendication, mais elle devrait figurer au bas de la liste. Pour moi, le problème de faire ça, on va pas y discuter des heures sur cette revendication, le problème, c'est de mettre ça aujourd'hui au centre des débats, la mobilisation de la semaine dernière, et puis en tout cas de la part du SPIAC en particulier, c'est ça l'axe, quoi. Mais ça participe, à mon avis, d'une stratégie plus large de la CGT, qui, à mon avis, est erronée, c'est une pirouette, c'est-à-dire qui consiste à dire que, comme tu l'as dit toi-même, ça ne faisait pas partie des négociations au départ, on va demander quelque chose en plus. Est-ce que c'est ça la question qui est posée aujourd'hui, alors que c'est les droits de tous les chômeurs qui sont remis en cause, qui risquent d'être défoncés, maintenant et dans les années à venir? Est-ce qu'on croit sincèrement qu'on peut aménager, améliorer les annexes 8 et 10 seulement, à moyen et même à court terme, quand tous les droits des chômeurs se font défoncer? Non, c'est illusoire de croire ça. S'ils défoncent les droits des chômeurs, ils vont défoncer les droits des intermittents dans la foulée. Et si c'est pas maintenant, ça sera dans 2 ans. Et donc, du coup, la question qui est posée de est-ce qu'on accepte une baisse des droits pour tous, pour tous les chômeurs, des économies pour tous les chômeurs, à un moment donné, et cette question-là, de mettre là tout de suite maintenant cette question des franchises, faire croire encore que le centre de gravité se passe dans les négociations. C'est ça, et tu dis, et du coup, on va amener quelque chose en plus à négocier, parce que c'est dans les négociations que ça se passe. Mais non, à un moment donné, on a vu qu'on avait le potentiel au Théâtre de la Colline, on était, plusieurs centaines au Théâtre de la Colline. Il y avait le potentiel pour construire un vrai mouvement, et on mobilise. Et oui, les annexes 8 et 10, les intermittents, sont le secteur le plus mobilisable de tous les chômeurs. On l'a vu dans tous les mouvements passés. Et donc, du coup, mais en même temps, on s'en sortira pas et on sauvera pas, y compris les intermittents, si on sauve pas les droits de tous les chômeurs. Et donc, du coup, c'est à ce niveau-là que les intermittents ont la force de poser la question les droits de tous les chômeurs. Là, aujourd'hui, l'enjeu principal, il n'est pas sur les franchises, il n'est pas sur comment se comportent les négociateurs dans les sous-négociations de secteurs, de je ne sais pas quoi. À un moment donné, il y a des économies qui ont été posées, c'est ça, qui ont été demandées à être réalisées, voilà, 1,3 milliard d'économies, ok. Et bien, c'est à ça qu'on s'oppose. La CGT a dit l'acte 1, parce qu'on parle d'acte en ce moment, l'acte 1 de la CGT, c'était déchirer la lettre, l'acte 2, ça aurait dû être qu'on sort de ces négociations, maintenant on construit le mouvement pour mettre en application ce qu'on vient de dire. On veut pas d'économie, point, et la seule chose qui va l'imposer, c'est pas des négociations. La seule chose qui va l'imposer, c'est construire un mouvement. Et là, en ce moment, quand on a un contexte social et politique comme celui-là, avec un mouvement qui a réussi, et qui est en train de faire d'ébranler un pouvoir que ce que des mobilisations syndicales, des années de mobilisation syndicale n'ont pas réussi à faire, et ça, il faudrait commencer à le reconnaître, c'est là, en ce moment, qu'on peut poser, en construisant un mouvement de chômeurs, avec les intermittents en son sein, en construisant un mouvement de chômeurs, c'est là qu'on peut poser la question du chômage, et y compris, du coup, quand t'as un mouvement comme celui des gilets jaunes et qu'on peut se dire on n'arrive pas à l'influencer parce qu'il est ceci, il est cela, et ben quelle meilleure manière de l'influencer que de construire un mouvement de chômeurs qui va poser la question du chômage et qui va pousser aussi ce mouvement des gilets jaunes qui est composé en grande partie aussi de chômeurs et de précaires, qui va le pousser à intégrer cette revendication, mais on peut pas le pousser à l'intégrer si on construit pas ce mouvement. Et pour construire ce mouvement, eh ben ça suffit pas de se dire bah oui mais attendez, écoutez, de savoir ce qui va se passer à la prochaine négociation. Ce qu'on a vu depuis la colline où il y avait des centaines de personnes qui ont répondu présentes, c'est que à chaque fois on fait des AG après AG, on est de moins en moins nombreux parce que ces AG sont chiantes comme la mort. Elles sont chiantes comme la mort. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois on attend de savoir qu'est-ce qui s'est dit dans la négociation, et on écoute et on comprend rien. Et la seule chose qu'il y a à comprendre, c'est qu'ils veulent nous défoncer. Ils ont prévu 1,3 milliard d'euros d'économie. Est-ce que oui ou non, on accepte? Si on n'accepte pas les négociations, il n'y en a pas. Point. On va les imposer. C'est pas parce qu'on va envoyer des bons représentants dans les négociations qu'on va réussir à obtenir quoi que ce soit. C'est parce qu'on va construire un mouvement qui va faire blocage, qui va bloquer, qui va imposer, qui va mettre au pied du mur. Et il faut arrêter de négocier. Point. Et si on continue sur cette voie-là, la semaine prochaine on est 30, la semaine d'après on est 20, et voilà. Et du coup, pour continuer à parler de franchise ou de surfranchise, mais on est complètement à côté de ce qui est en train de se passer.
Non, je voulais juste ajouter à ce que tu dis, sur lequel je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est que, je suis pas dans les actions, hein, je suis à autre chose, mais ça serait vraiment très bonne idée si on avait un gilet jaune dans ses poches quand on fait des actions sur l'opéra et tout ça. C'est une manière de poser les choses dans le contexte. C'est vraiment, et ça ferait, je crois, beaucoup de, ça donnerait beaucoup de courage aux copains qui se mobilisent tous les samedis, de savoir que les intermittents du spectacle sont aussi gilets jaunes. Voilà, vraiment, ça serait une très bonne idée. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
Rapport à ça, moi, je voulais aussi dire que à la toute première séance, on m'entend pas. qu'à la toute première séance, on a vachement parlé des gilets jaunes et qu'on on avait mis des mails en commun et des trucs, et qu'en fait, moi, tous les derniers samedis que j'ai fait depuis la première AG où on était là, c'était impossible de rejoindre ce genre de truc. Alors je le fais en individuel pour d'essayer de mettre nos revendications un peu devant et que ça ait une place dans les gilets jaunes. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui se fait et c'est un petit peu frustrant parce que du coup, j'ai l'impression que le samedi dernier, on se retrouve juste dans des manifs de faf et on ne sait plus où aller et c'est un peu compliqué, quoi. Et j'aimerais bien que quelque chose se crée ici, comme depuis trois semaines, j'aimerais bien que quelque chose se crée ici et que je ne le vois pas pour l'instant, quoi.
Où sont les intérimaires? Il y avait des intérimaires justement à la colline, il y avait des gens, il y avait ces copains-là. On peut pas continuer à essayer de s'ouvrir à cet endroit-là. Je pense que c'est important, quoi. Alors c'est vrai qu'il faut s'occuper du spectacle, de l'intermittence et tout ça, mais on n'en est plus là. Comme le disait le copain là-bas, on n'en est plus là. On n'est plus à défendre notre... Mais c'est toujours comme ça que ça s'est passé. Hein. Je veux dire, depuis des années, on recule dans nos corporations et on se fait trucider, puis on se retrouve tout seul avec nos épées. Moi, je disais ça en 90, quand la SFP s'est cassée la gueule. Je disais, mais à force de se battre pour nos machins, ça marche pas, ça fonctionne pas. Bon, c'est vrai que c'est difficile, hein. Quand pour mobiliser les copains de l'audiovisuel, il faut leur faire agiter la franchise, c'est vrai qu'on n'est pas très loin. Vraiment, c'est angoissant. Quoi.
Bonjour à tous. Nous, on n'est pas intermittents. On représente le centre culturel hip-hop, La Place. Voilà. On a été en grève pendant 10 jours. On tenait à venir ce soir pour déjà soutenir les intermittents parce qu'on travaille tous les jours avec des intermittents. Et c'est notre lieu qui est menacé avec sa mission principale, qui est la mission du pôle artistique et culturel. Et c'est ce à quoi on s'est opposé pendant 10 jours. On voulait aussi réagir à ce qui était en train de se dire. Il faut savoir que nous, on est une toute jeune association, on a 3 ans. Quand l'association a débuté, on était 17. Aujourd'hui, on n'est plus que 12. Depuis 2 ans et demi, il y a eu 10 départs, dont 10 femmes. Aucun homme n'est parti, je dis ça parce qu'on est victime aussi de pas mal de pressions, d'injures, et etc. de la part de notre direction, mais c'est pas le sujet qui est là. Je voulais vous dire surtout que nous, on était, il y avait 2 syndicalisés en tout cas dans notre entreprise. On vient du hip-hop, on n'a jamais été vraiment touché entre guillemets par les luttes. On savait pas forcément, on est jeune aussi dans la manière de percevoir le spectacle, l'intermittence, etc. Et donc depuis 2 ans et demi, on apprend. Et de la boîte, on est passé de 10% à 60% de syndicalisés, suite notamment aux conditions de travail qu'on a actuellement. Et je voulais donc vous dire que on rejoint aussi ces choses-là. C'est peut-être rien, mais en tout cas, notre échelle, c'est beaucoup. Parce qu'on se sent concerné par les luttes actuelles, que ce soit les luttes pour l'intermittence, les luttes que défendent les gilets jaunes, pour nos conditions de travail dans le secteur du spectacle, qui deviennent de plus en plus compliquées, et auxquelles on a lutté pour pouvoir, en tout cas, bénéficier d'un lieu culturel et avoir le minima, en tout cas, des droits que peuvent bénéficier les gens dans le secteur du spectacle et des arts vivants. Voilà. Aujourd'hui, notre lieu, il est menacé. Donc on a souhaité faire la grève. On était 84% de grévistes, 10 sur 12 personnes salariées. Donc voilà, je voulais vous faire part de cette expérience-là et de vous dire aussi que nous, on soutient l'intermittence parce qu'on est 10 ou 12, enfin on est 12 salariés, mais pendant qu'on fait du spectacle, eh ben, on monte la capacité grâce aux intermittents, on double nos effectifs. Et c'est important pour nous aussi que les intermittents comprennent aussi ce qui se passe aujourd'hui dans les structures culturelles, dans les salles de spectacle, dans les endroits où on défend les arts vivants. Parce que si ces endroits-là sont menacés et qu'à un moment donné, il n'y a plus ces salles-là pour faire du spectacle, voilà, au-delà de l'audiovisuel, où sera l'intermittence ?
Bonsoir. Non, moi je voulais juste réagir par rapport à la question des gilets jaunes, effectivement, qui me semble hyper importante parce que, effectivement, à l'AG de la Colline, il y a quand même un communiqué de presse qui a paru et qu'on a voté massivement qui disait qu'on était avec le mouvement. Et je comprends pas pourquoi est-ce qu'on abandonne ça et il n'y a pas quelque chose qui se passe à cet endroit-là. Je voudrais juste dire que, par exemple, dans le 18e, il y a des AG qui se tiennent une fois par semaine, qu'ils ont créé un cortège samedi dernier. qu'ils ont fait une manif sauvage avant de rejoindre les Invalides, qui effectivement était un peu décevante, et que du coup ça a été une occasion pour eux en fait de pas se retrouver avec les FAF et de dire quelque chose. Ils avaient une banderole, donc je vois pas pourquoi est-ce que nous on ferait pas ça par exemple ici. On est une AG, ça fait quand même effectivement quasiment 2 mois qu'on se retrouve, donc on pourrait faire des choses comme ça pour que la manif samedi on porte nos revendications. Et aussi en parallèle à ça, il y a quand même l'AG de Commercy qui appelle à une AG des AG samedi. C'est pareil, on est une AG, et pourquoi est-ce que nous, surtout ce qui est très intéressant à l'AG de Commercy, c'est qu'ils disent que c'est pas parce qu'on n'est pas obligé de porter le gilet jaune, mais si on a la même rage qu'eux, on peut envoyer des représentants. Donc moi, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on se sent pas concerné par cet AG, et c'est pas un thème qu'on évoquerait aussi ici, de voter parmi nous si on a envie d'envoyer des représentants, et aussi du coup si on a envie de le faire, lesquels, et préparer ce qu'on pourrait dire en fait à l'AG des AG. Je pense que ce serait une très bonne occasion en fait de parler de notre mobilisation à ce moment-là, et aussi parce que j'imagine qu'on n'est pas tous concernés, enfin en tout cas on n'est pas tous engagés parmi les gilets jaunes à la même échelle. Ce serait l'occasion, avec ses représentants, de pouvoir aussi, nous renvoient ce qui a été dit à l'AG, pour qu'on soit bien au courant et que ce soit pas simplement des fantasmes sur... Parce que certes, il y avait des FAF samedi, mais il n'y a pas que des FAF dans les gilets jaunes, on le sait quand même très bien, et que si en fait, nous, on fait partie des gilets jaunes et on vient, ça peut lutter contre les FAF, donc c'est très important en fait d'y être aussi, je trouve. Donc voilà aussi que ces représentants qui viendraient en observateurs nous permettraient aussi de nous renvoyer ce qui a été dit à l'AG des AG, et voilà, de pouvoir commencer à s'auto-organiser, parce que ce que je note là, qui est très flagrant, c'est qu'on est face à un mépris absolument hallucinant du gouvernement avec cette lettre de cadrage, et que le mouvement des Gilets jaunes, ça naît du mépris du gouvernement, donc on est complètement concerné par cette mobilisation, et il faut absolument la rejoindre. Enfin, je pense que là, on en est là, quoi, aujourd'hui. Voilà. Donc, moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse un vote pour dire est-ce qu'on a envie d'envoyer des représentants, et qu'on s'occupe de cette question réellement aujourd'hui. Voilà.
Rapidement, un contre-coup à ce qui a été dit à plusieurs reprises sur l'idée d'avoir à se mobiliser et à former une sorte de cortège ou quoi. Enfin, moi, je comprends que ce soit difficile pour une organisation syndicale dans le cadre des Gilets jaunes, qui est quand même une mobilisation d'une ampleur exceptionnelle. Enfin, je veux dire, tout le monde a son gilet jaune, il n'y a aucun drapeau, et ça défile comme ça. Donc, je comprends que ce soit difficile pour une organisation qui ait une marée, si vous voulez, pour faire la plaisanterie, qui ait une marée de Gilets jaunes, et au milieu, une banderole de la CGT Spectacle. Vous voyez, En tout cas, il y a une revendication autour du chômage qui n'était pas sur les 10 premiers actes et qui tout d'un coup apparaît dans les, vous savez, les différentes catégories qui sont citées dans les tracts. Le mot chômeur apparaît. Donc c'est quand même une question depuis 2-3 semaines qui émerge. Dans ces débats-là, ce serait bien que ça se poursuive, parce que on estime que c'est une question qui est primordiale, peut même probablement plus importante que l'emploi lui-même. Mais en tout cas, la question d'avoir à rejoindre les gilets jaunes autour de quelque chose qui serait commun, ça me semble, j'ai du mal à associer quelque chose de construit dans un cortège des gilets jaunes. Enfin, je ne sais pas si je suis très clair, mais en tout cas, j'ai du mal à faire le lien entre pourquoi est-ce qu'on ne fait rien quand il se passe quand même des choses.
À un moment donné, quand t'es entouré que de gens qui sont des gros cons, tu vois, genre la semaine dernière, moi j'ai vraiment eu des mauvais exemples, et que du coup, en fait, ça m'a un peu saoulé, quoi. Je me demande si j'y retourne la semaine prochaine, quoi. Et que c'est juste que ça m'a vachement donné envie qu'on ait un truc commun, parce que il me semble qu'on a des trucs à défendre et qu'on pourrait réfléchir à plusieurs pour le faire, tu vois.
Bonjour. Je m'appelle Clément, je suis du syndicat national des artistes plasticiens CGT. On est beaucoup moins nombreux que vous, parce qu'on est dans une profession où tout le monde est un peu plus seul, quoi. Et on a fait une petite action la semaine dernière, on a fait des pancartes devant la maison des artistes qui est en train de fermer. Et le lendemain, on s'est retrouvé à Troyes avec des pancartes à la manif des Gilets jaunes, où en fait, au lieu de parler de problèmes techniques, on parlait juste de culture, de dire l'art pour tous, des choses cons, mais qui sont pas présentes dans ces endroits-là, qui amènent peut-être une pensée plus globale, mais qu'on n'entend pas à ces endroits-là. C'est vrai que c'est chiant d'être avec des mecs qui chantent la quenelle, mais je pense qu'il y a des gens dans les syndicats qui chantent, qui peuvent chanter d'autres chansons, il y a des personnes qui peuvent faire du spectacle, qui peuvent animer, et je pense qu'ensemble, on peut vraiment porter un peu de culture, en fait, dans ces manifestations-là. Et ça peut être vraiment fort, je pense qu'on en manque, et ça peut créer un côté un peu plus festif et joyeux, comme on a pu le voir dans d'autres manifestations. Je pense que c'est là, et rien que je vois le nombre qu'on a ici, si on vient tous samedi prochain foutre le bordel, ça peut être magnifique, quoi. C'est tout.
Non, simplement pour dire que il y a des départs qui se font. Si on ne peut pas se retrouver au milieu des FAF, il y a des départs qui se font, il y a des départs de la Croix de Chavaux, de Montreuil. Il faut regarder sur les réseaux sociaux, il y a plein d'endroits gilets jaunes qui ne sont pas des appels de FAF. Et quand on rencontrait justement des mots d'ordre un petit peu tendancieux, ben nous on en disait des différents. Et c'est vachement bien de faire ça. C'est-à-dire que quand il y en a qui disaient Castaner nique ta mère, nous on disait Castaner nique ton père, tu vois, et on le faisait assez fort, de façon assez violente. Et donc voilà, c'est tout. Et puis quand on entendait des mecs, voilà, il faut réagir, il faut agir, parce que ce qui se passe, hein, c'est un mouvement social, c'est pas un mouvement politique, c'est un mouvement social. Les gens, ils sont avec leur, ils peuvent plus consommer, ils n'y arrivent plus. Donc on leur dit, mais si, continuez. Ben non, ils n'y arrivent plus. Donc là, maintenant, c'est à nous. Ils sommes aussi, comme le disait le copain, responsables. On est plasticiens, on est musiciens. C'est à nous de faire qu'il y ait la parole qui circule. Et bien souvent, les choses, tout d'un coup, on rencontre... Il n'y a que les purs et durs. Bon, les mecs qui sont dans l'idéologie, mais il y en a à l'extrême droite, comme il y en a aussi à l'extrême gauche, d'ailleurs. Mais il y a une complémentarité qui se fait en ce moment dans ces contraires. Le seul excès, le seul extrême, aujourd'hui, c'est le centre. Voilà. Et par contre, les contraires, ils sont complémentaires aujourd'hui. Et ça, c'est intéressant. Et il faut y aller. Voilà.
En fait, moi, je pense que aujourd'hui, là, avec la lutte à laquelle on a affaire, même si effectivement c'est une AG qui est convoquée par la CGT, il n'y a pas que des syndiqués ici. Et si jamais en fait ils se préparaient des choses pour participer à la mobilisation des Gilets jaunes, c'est pas obligé qu'on parle en termes de syndicats. On peut parler en termes de chômeurs, de chômeuses, d'intermittents, de précaires. Voilà. Et du coup, c'est quand même, faut le préciser. C'est-à-dire que, déjà la première chose, la deuxième chose, c'est que je pense que les Gilets jaunes, c'est pas un état de fait, c'est pas quelque chose qui est immuable. Ça bouge, on le voit bien entre le début de ce qui s'est passé et aujourd'hui avec les manifs déclarés, etc. Ça change vachement la donne. Du coup, je pense qu'on doit constamment en fait réfléchir à des nouvelles manières de faire le truc, parce que sinon ça va juste s'éteindre à petit feu, ça va se légaliser, ça va plus du tout faire peur. Et du coup, en fait, je pense qu'il faut constamment qu'on réfléchisse à des nouvelles manières de faire, quitte à ce que ça ressemble pas exactement à ce qu'on faisait hier ou avant-hier, etc. Donc voilà, du coup, c'est une proposition que je faisais de dire il y a l'AG du 18e avec les quartiers populaires en colère, au moins ça nourrit de quelque chose de très fort. Je sais pas si c'est la meilleure solution de dire que nous on va faire une banderole de chômeurs en colère, mais en tout cas je pense que ça se réfléchit dans le cadre de cette AG, et que c'est aussi à ça que ça sert, une AG de la CGT, pas que de faire des comptes rendus de, de, négociation, même si on a besoin de savoir ce qui s'y passe, et merci beaucoup. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que, ouais, qu'est-ce qu'on fait de la GEP commercie? Enfin, en fait, ce serait bien qu'on en parle vraiment, quoi. Enfin, de décider, est-ce qu'on vote, quoi. Enfin, voilà, je reviens encore une fois là-dessus, mais faisons-le une bonne fois pour toutes. Votons, est-ce qu'on a envie d'envoyer des représentants à cet AG? Qu'ils seront des représentants, voilà, à décider, et après à décider aussi ce qu'on y met là-dedans. Des représentants, mandat révocable et impératif, voilà.
Bonjour, Olivier, je ne suis pas syndiqué, et je représente ce que vous appelez les copains de l'audiovisuel. C'est un peu plus de 30 ans que je n'ai pas pris la parole. Je voudrais vous demander, tous ceux qui travaillent pour l'audiovisuel, de lever la main si ça ne vous dérange pas. On est assez minoritaire. Alors déjà, on n'est pas très nombreux, on est plutôt minoritaire. Moi, je me définis d'abord comme un travailleur précaire, peut-être, mais travailleur. Alors, ceux qui travaillent dans l'audiovisuel, on a tendance à dire qu'ils gagnent bien leur vie, que les franchises, ils réclament des trucs qu'ils n'ont pas besoin parce qu'ils sont grassement payés, etc. J'aimerais juste faire un petit rectificatif. Je me sens pas du tout chanceux. Je suis précaire comme la plupart d'entre vous. J'ai des bons salaires, mais quand je bosse pas, j'ai pas de salaire, surtout avec cette histoire. Fermez la parenthèse. Deuxième truc. C'est que l'audiovisuel, c'est quoi à dire, mais si on doit revenir sur ces négociations actuelles, s'il te plaît, tu pars tout le temps, ça me saoule, tu vois. C'est depuis le début, ça saoule, parce que j'essaie d'écouter les gens, puis j'entends pas, quoi. Donc, voilà. Il faut savoir un truc, que dans les négociations actuelles, je reprécise, je ne suis pas syndiqué, mais je suis un petit peu au courant de ce qui se passe. C'est le MEDEF qui fait pression pour, on va dire, sursoir les négociations. Le MEDEF est représenté essentiellement par des gens de l'audiovisuel, Courbi, des gens comme ça, qui ont un poids, mais de dingue, au niveau du patronat. Il y a un truc qui marche très bien en télé, et qui est tout de suite visible, je le dis pour aller très très vite, mais il faut que nous, on se sente un peu soutenus par les syndicats, puisqu'on est très peu, moi, je ne suis pas syndiqué, mais il y en a très peu syndiqués en télé. En cinéma, c'est pareil, je crois. Il y a un truc qui marche super bien et qui est très efficace et qui est aussi efficace que les gilets jaunes quand ils balancent des trucs sur les flics, c'est la mire de barre. La mire de barre, c'est imparable. Si on se sent soutenu, nous, en tant que travailleurs de l'audiovisuel, pour bloquer des antennes, pour que des émissions ne se fassent pas, pour que des reportages ne soient pas tournés, je vous jure qu'au bout de 3 jours, quand il y a des mires de barres un peu partout, des programmes annulés sur toutes les chaînes de télé, putain, mais là, je vous dis que ça bouge très très vite. Le seul truc, c'est que on est super seul, super isolé. Alors, j'ai pas de solution. Justement, ce que j'aimerais vous demander, c'est est-ce que via un soutien syndical ou via d'autres personnes qui connaissent des façons de faire, pour être entendu très vite, que ce soit un message pour la culture, pour le spectacle vivant. Je connais très peu le spectacle vivant, je suis désolé, donc je ne peux pas en parler pour vous. Mais en cinéma, je sais que, par exemple, les monteurs de films ont énormément de difficultés parce qu'ils n'ont aucune reconnaissance de leur boulot. Je suis monteur, hein, par la même occasion, mais pas en film. En tout cas, voilà, moi, c'est juste un truc comme ça, très prosaïque, très pragmatique. Il y a un truc qui est très efficace, c'est voilà, c'est la télé qui est bloquée. Quand la télé est bloquée, je vous jure qu'ils réagissent comme le gouvernement réagit avec les gilets jaunes, parce qu'en fait, on est dans la même situation. C'est qu'on nous fait croire qu'on est des nantis, vous les gens du spectacle, nous les gens de la télé, alors qu'en vérité, on est quand même des travailleurs précaires, n'oublions jamais, enfin moi, je l'oublie pas, et on se fait entuber gentiment sur plein de points. Nous, pour la télé, par exemple, un exemple très simple, on fait des journées de 16 heures qui ne sont jamais rémunérées. Les heures sup, on peut s'asseoir dessus gentiment. On peut être annulé du jour au lendemain, ce n'est pas un problème, alors que la loi est censée nous protéger par rapport à ça. Et je peux, comme ça, multiplier les exemples à l'infini. Et dans le cinéma, ça ne peut pas pareil, d'après ce que m'ont dit certains potes, pour la post-production de films. Donc voilà, moi, c'est juste une question, une interrogation. Est-ce qu'il y aurait des moyens? Moi, je peux vous donner 2-3 pistes. En tout cas, il y a des trucs qui marchent très bien, qui ont marché très bien il y a quelques années. C'était à l'issue de mauvais comportements sur des conventions collectives qui avaient été signées il y a 7 ou 8 ans, je crois, sur le non-respect, par exemple, des heures supplémentaires, de la majoration des heures de nuit, etc., etc. Enfin, il y avait plein de trucs. Et il y a un truc qui marchait très bien, c'est le boycott. On appelle, « Ah, mais je suis pas libre. Moi, je viens pas parce que je suis malade, j'ai une grosse chiasse. » Et puis tous les copains qu'on appelle, « Ah, bah, je suis pas libre. » Déjà, rien que ça. Les boîtes, les réagissent, les productions réagissent tout de suite, hein, sont dans la panique, elles vont prendre des stagiaires, ça marche pas, et ça peut bloquer 2-3 reportages. Mais si on fait ça à peu près tout le monde, si on arrive tout du moins à sensibiliser, parce que le plus dur chez nous, c'est de sensibiliser les autres techniciens de l'audiovisuel, monteurs, cadreurs, preneurs de son, etc. Je pense que, je suis désolé de me répéter, mais je pense que le vrai moyen d'action super efficace, il est là. Je sais que le spectacle vivant peut faire des choses très belles, comme tu dis, mais malheureusement, ça se voit pas trop, quoi. Surtout quand c'est noyé dans une grosse manifestation. Je veux pas dévaluer, hein, c'est pas le souci. Je veux juste te dire que la mécanique imparable, c'est cette putain de télé. C'est un peu comme si vous coupiez le signal Internet. Tout d'un coup, plus personne n'a Facebook, plus personne n'a WhatsApp, qu'est-ce qu'on fait? Ah putain, eh ben là, pareil. Signal télé qui est coupé, c'est la grosse panade pour eux. Parce que là, c'est les décideurs qui sont derrière. C'est les décideurs. Et petit aparté, j'avais lu sur un forum il y a 2-3 jours qu'il fallait sensibiliser les patrons de production audiovisuelle, alors télé, cinéma, j'en sais pas, de dire oui, ça serait bien qu'ils nous soutiennent, patati, patala, machin. Bon, alors des patrons sensibles à la condition des intermittents, moi j'en connais pas. À part les petits mecs qui commencent pour monter des courts-métrages ou des petits documentaires audacieux qui sont extrêmement rares. On les compte, allez, on va dire, il y en a peut-être 40 à Paris. Tous les autres, c'est déjà des sociétés moyennes ou grosses qui en ont strictement rien à battre. Non seulement elles n'en ont rien à battre, mais le système de l'intermittence, c'est tout bénef pour elles. Parce que ça veut dire que depuis 30 ans, on n'a que des travailleurs flexibles pour lesquels on peut arrêter, recommencer un contrat sans que ça leur coûte rien. Une partie de l'économie audiovisuelle est financée par le chômage. Ça, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Que ça soit pour les documentaires ou la fiction. Donc, voilà, j'insiste, si on peut nous aider à trouver des solutions, à part le boycott ou d'autres actions pour bloquer la télé, je peux vous dire que ça, c'est vraiment efficace. C'est non seulement efficace, mais si ça pouvait être fait maintenant, dans cette... Bah, parce qu'on a les mêmes revendications, en définitive, que les Gilets jaunes, c'est la reconnaissance de nos métiers. Parce que moi, j'insiste bien sur métier. Parce que je ne me considère pas comme chômeur à plein temps. Je me considère comme travailleur précaire, mais travailleur quand même. Dont le manque de reconnaissance immédiat, c'est « Putain, tu fais des heures comme c'est pas permis, je suis pas payé pour... » Ou d'autres points, voilà. Et j'ai pas beaucoup plus à dire, mais voilà, c'est le seul point de mire, le seul horizon que je peux vous donner, une piste de travail qui peut être intéressante en ce moment et qui paraît indispensable. Merci.
Donc moi je voulais rebondir sur la première intervention en question à la CGT, mais c'est vrai que la question de est-ce qu'on sort aussi des négociations, je n'ai jamais entendu poser. Peut-être que, je ne sais pas si vous pourriez répondre ou pas, quel est l'intérêt pour l'instant de rester dans la négociation? Parce que c'est vrai que je suis aussi très pessimiste quant au gouvernement et in fine au MEDEF et à tout ce qu'il peut y avoir. Et sortir, ça peut être aussi une façon de lancer une mobilisation, peut-être. Enfin, je ne sais pas quel est votre point de vue là-dessus. Et pour Commercy, en fait, ça fait 3 semaines, à chaque fois, c'est évoqué. Mais la difficulté, c'est qui et qu'est-ce qu'on représente? Parce que là, pour l'instant, au final, on représente une centaine de personnes. Les quelques tentatives qui ont été faites n'ont jamais... Les chaînes de SMS n'ont pas fonctionné ou... Donc après, si tu as vraiment une idée, moi je suis preneur, mais à chaque fois on propose d'avoir une idée, mais on n'en a jamais une. Donc c'est vrai que c'est pas facile, et là-dessus je suis d'accord avec toi, mais j'ai pas de grande idée à te proposer, quoi.
Alors moi j'ai juste 2-3 petites interrogations. C'est assez rigolo de commencer en parlant des surfranchises et disant c'est compliqué, il faut pas s'opposer dans la profession. Et puis, 5 secondes après, dire « Mais vous, dans le spectacle vivant, quand vous faites un truc, ça se voit pas. » Parce que c'est un peu compliqué. En termes d'ego, c'est un peu compliqué à encaisser, quand même. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Sauf que, justement, et ce sont les actions de la CGT et de la CIP depuis des années, c'est de les faire ensemble. Ce qui fait que c'est pas l'audiovisuel qui fait des actions médiatiques et le spectacle vivant qui fait des actions minimes. C'est que certes, néanmoins, justement, souvent, ce sont pas les personnels de l'audiovisuel qui bloquent les plateaux de télé, ce sont ceux du spectacle vivant parce qu'ils ont moins à perdre à aller bloquer des plateaux de télé. Donc, justement, essayons de construire les choses ensemble. Je voudrais revenir sur ce que Samuel a dit, parce que j'ai l'impression que sa parole est un peu dévoyée depuis tout à l'heure. Je ne cherche pas particulièrement à le défendre, il sait très bien le faire lui-même. Néanmoins, l'idée, ce n'était pas d'attaquer des nantis, ce n'était pas de dire il y a 8% de gens qu'il ne faut pas défendre et qu'il ne faut pas protéger. Ce n'est pas ça qui est dit. Ce qui est interrogé plus globalement, c'est la stratégie de la CGT au sein de ces négociations. Ce qu'on a essayé de poser comme question aussi il y a 2 semaines, c'est de dire on ne comprend pas trop vers quoi on va. D'ailleurs, lorsque Véro avait posé la question et que je l'avais posée aussi, la réponse c'était mais parce que je crois vraiment que soit il y a une stratégie claire, et dans ce cas-là, moi aussi je m'y oppose assez fortement, soit ce que je pense dans le fond, c'est que la CGT, je me trompe peut-être, hein, pense qu'en fait les intermittents ne risquent pas grand-chose sur cette négociation-là, qu'on a ouvert un parapluie, qu'on est tranquille, donc on va surtout pas risquer de demander trop, parce qu'on pourrait perdre plus, donc on va juste gratter un petit peu des choses qui auraient été mal retranscrites. Oui, c'est un acte fort de déchirer une lettre de cadrage, c'est de dire on refuse cette chose-là. C'est quoi la menace qui suit ? Parce que déchirer une lettre de cadrage, ça sous-entend qu'on refuse d'être cadré. Donc, effectivement, qu'on refuse d'aller négocier dans ces conditions-là. Si on continue à les négocier derrière, bah, dans les couloirs, ils rigolent gentiment, quoi. Ils continuent à faire ce qu'ils font comme d'habitude. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une négociation de couloir et puis une négociation d'apparat autour des tables. Donc, je repose cette question. Quelle est la stratégie ? Avec moi, une grosse crainte qui est une négociation à 3 tours. C'est-à-dire une première négociation qui se fait là, on va ouvrir notre parapluie, peut-être qu'effectivement on va réussir à enlever certaines franchises ou à remettre un régime un peu plus juste sur ce qui aurait été mal retranscrit. On pourrait en tout cas avoir, pour notre secteur, remporté une bataille. Mais on sait très bien que derrière, le régime G va se faire désinguer, ils vont se faire détruire. Ma grosse crainte, c'est qu'après ils disent « Hey, maintenant que c'est signé à l'Interpro, vous êtes bien gentils, mais vous y retournez les gars ». Vous retournez négocier maintenant à l'intermittence, parce que ça y est, c'est entériné les 3,9 milliards, donc maintenant, vous, bah, il va falloir faire votre part du gâteau. Moi, j'ai un peu peur de ce truc-là. Et après, oui, pour avoir une délégation à certaines AG, c'est important de s'y montrer. Oui, pour faire un cortège unitaire, pourquoi pas, on pourrait très bien organiser un cortège, un point de rendez-vous, où effectivement, il y a des endroits où il y a des manifs, des points de départ qui se font et qui sont, au moins on sait avec qui on va lutter, bah on peut aussi l'initier nous-mêmes. Moi je trouve que c'est une très bonne idée. Et amplifions, mais c'est compliqué d'amplifier parce que je suis d'accord avec toi, il faut rendre visible notre mouvement aussi, nos problématiques. Mais en fait, refuser d'aller travailler et donc d'en faire un blocage économique, en fait, c'est rien d'autre que la grève. C'est pour ça que la CGT a posé un préavis de grève illimité à un certain moment. Sauf qu'une grève, ça ne se décrète pas, ça se fait. Et il faut aller, effectivement, aller voir les copains, expliquer ce qui est en train, et les copines, aller expliquer ce qui est en train de se passer, aller dans les lieux de culture, et aller bloquer les pôles emploi, parce que effectivement, c'est aussi un lieu où on peut aller voir les chômeurs. On avait fait aussi des actions qui étaient ultra laborieuses, mais malgré tout, ça permettait de muscler son discours et d'aller rencontrer des intérimaires. On allait bloquer toutes les boîtes d'intérimaires, c'est-à-dire qu'on faisait des micro-blocages, on faisait une demi-heure, mais ça nous permettait de rencontrer des gens, d'essayer d'expliquer ce qui se passe, et puis aussi d'apprendre de leurs conditions de travail et de leurs propres problématiques, parce que malgré tout, on est à milieu des réalités de beaucoup de chômeurs, on est à milieu des réalités de beaucoup d'intérimaires pour ce qu'il en reste. Et est-ce que la chose la plus forte à revendiquer, c'est pas aujourd'hui, ce n'est pas que ces franchises-là disparaissent ou du moins soient mieux retranscrite, mais plutôt de dire ce n'est pas possible que 6 chômeurs sur 10 ne soient pas indemnisés. Mais ça devrait être la top revendication. En fait, ça devrait être le premier truc qu'on devrait porter. C'est simple à dire. C'est simple à dire. Donc effectivement, malgré tout, les intermittents indemnisés dans la masse des chômeurs non indemnisés, les 8%, je suis navré de le dire, sont malgré tout des nantis. Ça ne veut pas dire qu'ils ne travaillent pas, ça veut dire qu'ils sont privilégiés par rapport à 6 chômeurs qui touchent zéro. C'est juste ça la balance.
Bonsoir. Moi, ça fait très longtemps que je ne suis pas venue en AG, du coup, je ne suis pas trop au fait des problématiques, mais c'est juste une remarque un peu de forme. Ce qui me donne souvent pas envie de venir en AG, c'est que j'ai l'impression que chacun parle et que ça n'avance pas, enfin, il n'y a rien qui se passe concrètement. Et du coup, est-ce que ça ne serait pas envisageable, par exemple, il y a Lou qui est là, qui a fait une proposition de voter pour savoir s'il fallait envoyer des gens à Commercy. Est-ce que ce n'est pas possible de temporairement centrer la discussion sur ça ? Qu'il y ait des gens qui, s'ils veulent, fassent une objection au fait de voter pour ça, ou alors qu'on vote, etc. Et qu'après, tous ceux qui voulaient parler reprennent leur tour de parole. Vous voyez ce que je veux dire, que ce soit un peu plus structuré. Donc, est-ce que ce serait possible, par exemple, de voter là, maintenant, pour ça ? Est-ce qu'il y a des objections ? Est-ce qu'on peut parler de ça ?
Moi, je suis un élu du syndicat français des artistes et interprètes. J'ai un mandat. J'ai un mandat limité sur certaines choses. Donc je ne m'exprime pas à mon nom propre, je m'exprime pour mon organisation. J'ai aussi un élu de la Fédération du spectacle, donc je suis conscient de certains mandats que j'ai du côté de la Fédération du spectacle. Donc, ces paramètres posés, pour les deux personnes qui ont posé des questions sur ce qu'on cherche dans les négos, deux choses. Je pose le truc, c'est peut-être long. En ce qui concerne les annexes, j'ai dit que j'arrivais avec Pierre, on arrivait des négociations. Mais en fait, c'est des négociations sur des termes de la réponse qu'on va donner à l'Interpro, aux organisations interprofessionnelles, sur notre refus de négocier. Nous ne négocions pas actuellement notre convention, nos annexes d'assurance chômage. On exige la transposition correcte des accords que nous avons déjà signés. Donc nous travaillons sur un avenant à l'accord d'avril. Nous refusons d'entrer dans le cadre de la lettre de cadrage. Au niveau interpro, je ne suis pas habilité à parler. Je ne suis pas Denis qui est toujours en train de discuter avec sur le spectacle aujourd'hui et sur le régime général demain, sur la convention générale demain. Néanmoins, ce que je sais, c'est que le débat a eu lieu aujourd'hui, mais ça a lieu apparemment régulièrement sur le maintien de la présence ou non de la CGT dont dans la négo du coup au niveau interpro, et qu'il y a eu un vote aujourd'hui et qu'ils ont décidé pour l'instant du moins de rester dans le cadre non pas dans le cadre de la lettre de cadrage mais dans la négociation. Il n'y a pas envie ni de leur côté ni de l'autre d'ailleurs pour l'instant que les instances paritaires disparaissent. Pour l'instant, nous n'avons pas envie que le chômage soit directement géré par le gouvernement. Ça peut évoluer. Il y a des pays où c'est comme ça, hein, de toute façon. À un moment donné, il était censé être un des piliers de la sécurité sociale. Ça n'a pas été le cas. Donc voilà ce que je peux dire là. Au-delà de cela, j'ai pas de mandat, j'ai une opinion personnelle. Et d'ailleurs, aujourd'hui j'ai été à un conseil national de mon syndicat avec une quarantaine de représentants des diverses régions où on a des représentations du syndicat. La question des gilets jaunes a été longuement débattue. La position qui a été prise à la fin, avec des gens qui étaient très, qui avaient une expérience des contacts et des manifs avec les gilets jaunes, et qui avaient les mêmes, qui allaient exactement comme ce qu'on disait là, c'est-à-dire qui allaient vers les gens sur leurs ronds-points et qui discutaient des demandes des ronds-points et qui apportaient leurs demandes, nos revendications, les histoires d'assurance chômage, mais pas que l'assurance chômage, les minima sociaux en général, tout ce qu'on a. Et eux, ils continuent à aller et manifester avec parfois, et dans d'autres régions, c'est plus difficile. Donc la position du syndicat a été de dire, là où c'est possible, d'y aller sur les revendications du syndicat. Et là où il y avait possibilité... alors, le grand débat, enfin, une partie du débat, c'était, est-ce qu'on entre dans les gilets jaunes en tant que gilets jaunes, artiste gilets jaunes, ou est-ce qu'on cherche une convergence de nos luttes avec les leurs? Là, ça n'a pas été tranché. L'idée, c'était d'y aller, de communiquer, de discuter, éventuellement d'agir ensemble. Il y a des endroits à Marseille, par exemple, où ça agit ensemble, sur certains ronds-points et pas sur d'autres. C'est compliqué la construction de la lutte. Voilà tout ce que je peux dire là-dessus. Et la dernière chose, c'est qu'effectivement, l'autre, Alice, l'autre mandat, c'est de venir vous donner le compte-rendu de ce qui se passe. La transparence a été demandée, on l'a déjà dit, on ne peut pas apporter la caméra et tout ça à l'intérieur, mais par contre, on vous doit de vous dire ce qui se passe.
Oui, justement, revenir par rapport au samedi, au rond-point, etc., où en effet, c'est compliqué. Samedi dernier, on est parti quand même des Invalides, mais il faut... Je ne sais pas si vous avez fait toute la manif, mais ça a été quand même une marée, quoi. Ça a été une très, très belle marée humaine. Et au final, il n'y a eu de cesse de petits cortèges qui ont rejoint le gros, et avec de tout, absolument de tout, dans le... Voilà. Et du meilleur comme du pire, et beaucoup de gens avec qui on peut discuter. Voilà, moi je me suis étonnée à discuter, là ça fait maintenant 2 mois que je discute avec des gens avec qui je n'aurais jamais parlé jusqu'à présent, et c'est constructif, donc c'est bien. Samedi, il y a eu un petit cortège de la CGT qui a essayé de rentrer, qui a eu des problèmes, donc on est venu aussi épauler, et ils sont rentrés quand même, avec les drapeaux et même avec leurs banderoles, parce que c'était « on veut pas de banderoles », etc., machin. Au final, ils sont rentrés avec leurs banderoles, ils sont rentrés avec leurs drapeaux. Après, je sais pas combien de temps ça a duré, moi, je suis pas restée avec eux tout le temps, mais voilà, ça se fait quand même, ça se fait au compte-gouttes, ça se fait petit à petit. Il y a les badges, il y a plein de choses, il y a les gilets rouges, et je pense que c'est bien si petit à petit, il y a plein de petits groupes qui viennent se mettre dedans. Parce que c'est là où on peut vraiment discuter aussi. Et puis, tout seul, oui, parfois, ça peut être plus compliqué, plus facile sur d'autres points de vue. Mais c'est vraiment utile et ça vaut le coup. Et j'espère que, voilà, petit à petit, qu'on soit aussi de plus en plus visible. Moi, j'ai l'assurance chômage sur mon gilet jaune. Ça apporte des interrogations. Il y a des gens qui viennent me poser des questions. En général, c'est plutôt des journalistes. Forcément, mais après ça entraîne des discussions avec d'autres, etc., et comme ça on fait émerger aussi la question. Pour ce qui est de Commercy, moi je pense que c'est très important qu'on arrive à faire venir du monde qui nous représente. Moi personnellement, ce samedi là je peux pas, mais je pense que ce serait vraiment bien, et les revendications sont pas compliquées. Le travail socialisé, c'est quelque chose qui fait partie des revendications gilets jaunes, donc on part de là. Que les minima sociaux, que le RSA soit autour de 400 boules alors que le seuil de pauvreté c'est 950, c'est une aberration. Ça doit faire partie des discussions. et bien évidemment l'assurance chômage avec le décret du 30 décembre sur le fait que maintenant au bout de 2 offres d'emploi non acceptées on est radié. Ça fait de quoi discuter sur quels sont les droits à l'assurance chômage et je pense que ça concerne en effet beaucoup de gens qui sont ou gilets jaunes ou sympathisants, et c'est très important je pense, comme les stylos rouges, comme voilà, que différentes catégories de population se retrouvent là. Et je rebondis, j'aimerais bien en effet, est-ce qu'il y a des gens disponibles samedi, est-ce que il y a un petit groupe qui y va et qui est prêt à venir échanger. Voilà.
Je crois qu'il voulait parler. Pour dire simplement qu'il y a une chose dans l'actualité, là, qui est chaud bouillante, qui est effectivement des négociations assurance chômage qui se passent ici, maintenant, dont personne ne parle. Et simplement dire que parmi leurs revendications, si effectivement ces 4 milliards d'euros d'économies sur le dos des plus pauvres étaient plus médiatisés, peut-être que ça n'aurait pas lieu. Parce que ce qui va se passer, c'est que là, tout de suite, là, dans les mois qui viennent, on voit bien que le gouvernement va frapper à tous les endroits qui ne sont pas défendus, entre guillemets, par les gilets jaunes. Ils vont faire très attention au niveau de leur com de ne pas afficher une revendication qui serait dont il saurait qui serait le feu aux poudres pour remettre encore plus de monde sur les ronds-points. Et donc tout ce dont les gilets jaunes n'ont pas parlé, eh bien évidemment ils auront d'autant plus tranquillement le pouvoir de le faire. Et donc si effectivement cette chose-là, parce que effectivement l'assurance chômage on n'en parle jamais, personne n'en parle jamais, et donc autour de ronds-points, c'est ce que je disais il y a 3 semaines, même les chômeurs n'en parlent pas. C'est-à-dire qu'autour des ronds-points, moi j'ai entendu des chômeurs à BFM qui disent je suis chômeur et je m'inquiète pour l'APL qui a augmenté. Et j'aurais aimé qu'ils disent aussi et je m'inquiète pour les 4 milliards d'euros qu'on va me réclamer. Voilà, et ça, je pense que c'est très important de le médiatiser. Et que ça fasse partie, effectivement, des revendications très importantes dans les premières des gilets jaunes, alors qu'elles n'en sont même pas dans les 45 qu'ils ont écrites.
Ouais. On pourrait ajouter, je crois que c'est clair pour tout le monde, que cette attaque contre le chômeur, c'est pour aussi, c'est une forme d'épouvantail pour justement faire que les gens acceptent de baisser leur salaire, de réduire, de travailler sans être payé. Enfin, je veux dire, ça fait partie d'une théorie et d'une rhétorique libérale de l'extrême centre dans lequel ils sont aujourd'hui. Et je veux dire, c'est clair, je pense, pour tout le monde que c'est ça qu'on doit porter, quoi. À la fois par les métiers du spectacle, mais aussi du régime général, et surtout du régime général. Voilà.
Juste pour terminer ce qu'ont dit les voisines là-bas, est-ce qu'on peut pas faire un sondage juste pour acter quelque chose, qui serait prêt à faire une manifestation samedi prochain avec comme mot d'ordre refus de la lettre de cadrage, voilà, qu'on soit pas forcément sous la banderole de la CGT parce qu'on n'est pas tous syndiqués, mais qui serait prêt? Est-ce qu'on peut juste lever la main ceux qui sont prêts? Voilà. Et sur Commercy, est-ce qu'on peut pas, est-ce que je peux pas renouveler un petit sondage qui serait d'accord avec l'idée d'envoyer une délégation à Commercy, c'est-à-dire d'abord de se réunir pour parler de ce qu'on irait mettre en avant là-bas. Je crois que la camarade est plus à même de le faire que moi.
Oui, pardon, c'est effectivement, j'ai lancé ça un peu comme une évidence et je m'en excuse. En fait, Commercy, c'est une petite ville dans la Meuse de 6000 habitants. Et c'est en fait, ça fait depuis le début un petit peu du je sais pas comment appeler ça, le soulèvement, le mouvement des Gilets jaunes, bon voilà, qui se sont auto-organisés en AG. En fait, et ils en font très très souvent. Et ils ont construit une cabane dans leur ville qui fait un peu office de maison du peuple autour auprès de laquelle ils se réunissent très très souvent, et ils se sont si bien organisés que et ils ont en fait eu vent des autres AG qui avaient lieu dans les autres villes, qu'ils ont eu l'idée de se dire passer une deuxième étape de cette auto-organisation, proposons une AG des AG. Voilà, c'est ça en fait, Commercy. Donc je suis hyper d'accord pour qu'on fasse un sondage. Enfin, voilà, encore une fois, je sur- et revalide le fait qu'on fasse un sondage si on a envie d'envoyer des gens là-bas, comme les profs l'ont fait aussi.
Je t'en prie. Moi, il y a un truc sur votre problème de chômage que j'ai pas très compris dans le vote. C'est pour ça que j'ai pas voté pour. C'est que je trouvais que rien que l'appellation était complexe. Je trouve qu'il ne faut pas qu'on soit dans des revendications trop techniques quand on est dans ce genre de manifestation. Il me semble, j'ai peut-être tort, mais je pense qu'il y a un côté de vulgarisation à faire qui est hyper important. Je pense qu'attaquer les précaires, c'est clair pour tout le monde. Après, on peut mettre des mots, chômage, précaire, des choses comme ça, artistes aussi. Et je pense que si on s'organise et qu'on mélange aussi tous ces messages-là, tous ces mots, un nuage de mots avec du son, enfin, spectacle justement. Tout à l'heure, il y avait l'histoire de la télé, du spectacle. Je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Ça peut être bien, quoi. C'est juste.
Alors, moi, j'ai une petite proposition. Bah, justement, peut-être aller à l'AG de Commercy pour proposer que une banderole des revendications des chômeurs soit faite dans le sein de la manif des Gilets jaunes. Mais c'est à ce moment-là qu'on peut introduire, parce que je vois mal d'arriver dans une manif des Gilets jaunes avec les banderoles, avec les revendications, sur nos revendications, la lettre de cadrage. Donc je pense que c'est plutôt, voilà, ça peut être une bonne... Je vois pas ça mal, mais on peut pas se... je sais pas, aller demander... aller sans demander, pas sans poser la question et sans... ça me paraît un peu délicat, quoi. Enfin, d'arriver comme ça, et ça peut se discuter dans une AG. Ça peut s'amener comme proposition.
L'idée sur laquelle je ne suis pas contre du tout. Mais il semblerait quand même que dans les halles, à ce moment de la lutte des Gilets jaunes, le rassemblement de Commercy et cet AG des AG soit surtout autour du référendum. C'est là la question. Je ne veux pas dire que c'est inutile, mais je pense qu'il faut avoir conscience de ça, s'informer là-dessus, se positionner, et que quelqu'un, artiste, intermittent, artiste ou pas, enfin intermittent en l'occurrence puisqu'on est là, s'il est d'accord avec ce référendum ou parfaitement contre, il peut y aller pour débattre du référendum et se présenter aussi en tant que quelqu'un qui lutte à l'endroit de l'intermittence. Mais je pense pas, il me semble pas avoir compris que l'AG, cet appel d'AG des AG, c'est alors moi j'ai telle revendication sur ça ou ça, moi là, et chacun vient faire la liste des revendications. C'est pas une AG de doléances, pour reprendre, c'est sur un fonctionnement pour arriver au référendum ou pas. Enfin, c'est ce que moi j'ai compris. Hein.
On fait paraître, en fait, donc alors là pour le coup, on serait un peu en dehors des clous, mais rien ne nous empêcherait d'essayer quand même. En fait, ce qu'ils ont proposé, c'était jusqu'à hier, ils ont proposé aux AG d'envoyer leurs revendications. Et du coup, en fait, de centraliser toutes les revendications de toutes les AG, donc c'est quand même aussi l'objet du truc, c'est pas simplement parler du référendum. Bon, voilà, c'est juste pour préciser.
Bonsoir. Alors, désolée de couper un tout petit peu là-dessus. Moi, je suis Marie, je suis du DAL, droit au logement, et en fait, c'est juste pour prévenir, je sais pas si vous avez entendu parler de ça, là, il y a un collectif... qui se met en place par rapport au projet de loi contre les manifs, enfin le projet de loi répression contre les
officiellement anti-casseurs, etc., qui est en train de passer à l'Assemblée, qui commence à passer à l'Assemblée dès demain en commission et qui va être en séance plénière à l'Assemblée, donc avec un risque de validation complète, puisque c'est déjà passé au Sénat, dès la semaine prochaine. En gros, cette loi, c'est un petit peu l'état d'urgence, donc avec les périmètres, avec les assignations, etc., etc. Et donc, il y a un collectif là qui s'est mis en place avec pas mal d'organisations, associations, collectifs, syndicats, partis, pardon, qui appellent à la fois à un meeting de rue demain à 18h devant Place Édouard-Herriot à côté de l'Assemblée nationale, comme c'est le début des débats en commission, et mardi prochain, le 29 janvier, une manifestation vers l'Assemblée. Et on vous laisse un petit paquet de tracts là, comme ça on ne vous prend pas plus de temps.
Oh, c'est très bien, nous avons besoin de cela. Nous on va rendre la salle, mais ce que je pense, et écoutez, nous on n'a pas une manif à proposer demain, par contre ça, à mon avis, on va essayer de le mettre sur nos réseaux, parce que ça, ça fait peur. Pense que le mieux, ça serait que ceux et celles qui souhaitent s'organiser pour aller à la, ou samedi manifester, ou aller à Commercy, au truc des Gilets jaunes, ben, qu'ils échangent leur numéro de portable ou leurs adresses mail pour s'organiser, pour le faire un maximum ensemble. Moi, personnellement, je n'ai pas de mandat de mon syndicat d'organiser ça, mais vous êtes 75 personnes ici présentes. Qu'est-ce qui vous empêche d'échanger vos coordonnées? Donc, nous, on appellera sans doute à notre Assemblée générale au moins d'informations, peut-être d'actions, quand on voit un peu plus clair du côté de la suite des événements concernant l'assurance chômage. C'est-à-dire après la journée de demain, parce que là on aura une idée, un, sur le calendrier, et deux, sur une éventuelle réaction au texte qu'on espère va sortir des discussions qui continuent à avoir lieu en ce moment. Ça vient de reprendre après une suspension de séance demandée par les employeurs pour se mettre d'accord entre eux. De toute évidence, ils ne se sont pas mis d'accord entre eux sur une partie d'une phrase concernant les CDD dits d'usage, mais ça continue à discuter. Donc demain, on aura une idée de là où nous en sommes et peut-être de là où on va. Donc merci de votre présence. Vous échangez vos numéros, organisez-vous. Hein. J'entends pas, Alice.